Et maintenant, que va-t-on faire de ces 5 ans anti-utopie? Il ne faut pas qu'on désespère maintenant qu'on a Sarkozy. Vous les amis, soyez gentils, vous savez bien qu'il faut se bouger. On se retrouve ce mercredi à 19h au poulailler, place du 14 juillet à Bègles en Gironde. On a vraiment beaucoup à faire. On a vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, c'était ma façon de vous signaler que ce mercredi 16 mai 2007, le jour même de l'investiture du nouveau président de la République française, se tiendra à partir de 19h au poulailler de Bègles, le repère là-bas si j'y suis, sur le thème « Et maintenant ?» D'où la chanson, là, oui. Alors, venez nombreux, il y a de la place. Que chacun apporte ses provisions d'idées. Françoise vous fait dire qu'on peut aussi apporter son pique-nique. Non, ce n'est pas la fin du chemin. Et le matin ne reviendra pas pour rien. Alors on compte sur vous.
Bonjour Daniel. Voilà, j'ai regardé l'investiture de M. Sarkozy. J'ai pleuré, peut-être avec beaucoup de ceux qui avaient osé une autre espérance. Mais enfin, il est président de la République. Je veux bien lui accorder crédit de la volonté qu'il manifeste de faire exister la justice, l'impartialité en toutes choses, toutes circonstances, pour chacun d'entre nous. Voilà, c'est Daniel. Au revoir.
Bonjour, en première mondiale, je suis en mesure de vous révéler le code secret de l'arme nucléaire. Avec un papier et un crayon, vous notez le 1, le 7, le 8, le 9, le 1, le 7, le 9, le 3, le 1, le 8, le 7, le 1, le 1, le 9, le 3, le 6, le 1, le 9, le 6, le 8, le 1, le 9, le 9, le 5, le 2, 0, 0, 7. Salut!
Quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? T'as encore pas diffusé mes messages? Tu diffuses jamais mes messages. C'est insupportable.
Oui, bonjour Daniel. Je te dis ça tout bas parce qu'il faudrait pas réveiller les gens. Mais mercredi 16 à 16h à Angoulême, le collectif de la sieste girondaise organise une grande sieste collective devant la statue du bien nommé Hergé pour faire la sieste et puis pour réfléchir, discuter ensemble tous les jours. Ça peut motiver une petite sieste en l'honneur de notre bon président. Allez, chut, t'en parles à personne surtout.
Oui, je voudrais rapprocher ce livre récent dont vous avez parlé dans votre émission de lundi, Traité d'autodéfense intellectuelle, d'un documentaire remarquable réalisé par Pierre Karl il y a quelques années, La sociologie est un sport de combat, dans lequel Pierre Bourdieu explique en quoi la sociologie critique, loin de donner des mauvais coups, est une discipline qui nous en protège. Ce documentaire a eu un effet irréversible sur moi et sur ma formation intellectuelle qui en a suivi. Bien entendu, je n'attends pas qu'un film produise les mêmes effets sur tous les spectateurs. Si tel était le cas, ça se saurait évidemment. Mais qui sait, peut-être que la révélation viendra pour d'autres de vos émissions consacrées à Chomsky. En tout cas, je ne peux m'empêcher de rapprocher ces deux intellectuels, Chomsky et Bourdieu, même si les approches sont quelque peu différentes. Mais la propagande et le consentement qui sont traités par Chomsky ont évidemment beaucoup à voir avec les notions de violence symbolique et de doxa au cœur des travaux de Bourdieu. Une phrase a joliment retenu mon attention l'année dernière. Elle disait à peu près ceci: ce qui compte, ce n'est pas que les gens pensent comme un tel, mais il suffirait qu'ils pensent, tout court. Vos émissions, et je vous en félicite, contribuent énormément à élever la pensée. Le désir de savoir n'est jamais aussi fort, lorsque notre pensée vient buter contre un paradoxe, et vous nous en montrez souvent des paradoxes. C'est d'ailleurs sans aucun doute la marque de fabrique de vos émissions, modeste et géniale. Je vous livre pour conclure celui qui ne cessait d'étonner Pierre Bourdieu et qu'il nommait le paradoxe de la doxa. Le fait que les conditions d'existence les plus intolérables puissent si souvent apparaître comme acceptables et même naturelles.
Bonjour. Je viens de terminer la lecture du livre « Les assassins de la mémoire » de Pierre Vidal-Naquet sur l'escroquerie intellectuelle que constitue le révisionnisme. Permettez-moi d'en citer quelques brefs extraits à propos d'un énième ouvrage révisionniste de Robert Forisson, ouvrage alors préfacé par un certain Noam Chomsky. Je cite « Se considérant comme intouchable, inaccessible à la critique, inconscient de ce que fut le nazisme en Europe, drapé dans un orgueil impérial et dans un chauvinisme américain digne de ces nouveaux mandarins qu'il dénonçait autrefois, Chomsky accuse d'être des liberticides tous ceux qui se permettent d'être d'un avis différent du sien. Chomsky est, comme beaucoup d'intellectuels, peu sensible aux blessures qu'il inflige, très attentif aux égratignures qu'il lui faut supporter. Certes, il n'est pas vrai que les thèses de Chomsky soient à rapprocher de celles des néo-nazis, mais pourquoi trouve-t-il tant d'énergie et même tant de tendresse pour défendre ceux qui se font effectivement les éditeurs et les défenseurs des néo-nazis et tant de fureur contre ceux qui se permettent de les combattre ? Et Pierre Vidal-Naquet conclut en s'adressant directement à Noam Chomsky « Vous n'avez pas le droit de prendre un faussaire et de le repeindre aux couleurs de la vérité. » Voilà, si je comprends bien, votre Einstein de la linguistique a autrefois défendu un Eichmann de papier. Bonne journée à vous. C'était Bertrand de Tourette-sur-Loup.
Eh bien, le voilà, le paradoxe qu'évoquait l'auditeur précédent dans son rapprochement entre Noam Chomsky et Bourdieu. Cet auditeur rappelle la controverse très vive et passionnante entre Pierre Vidal-Naquet et Noam Chomsky au sujet de Robert Forisson, mais aussi et avant tout, sans doute, au sujet de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on va évidemment évoquer cette question, puisque l'une des raisons pour lesquelles Noam Chomsky n'a pas en France la célébrité qu'il a partout ailleurs dans le monde et notamment aux États-Unis, c'est en grande partie pour cette raison-là. Donc on va ouvrir le dossier. Évidemment, on en a parlé avec Chomsky, qu'on va entendre s'exprimer à nouveau depuis 25 ans, 30 ans. Il a l'habitude de répondre à cette question. On aura aussi la voix de Pierre Vidal-Naquet qui, dans nos archives, est présent et souvent s'est exprimé sur cette question qui a été une des grandes affaires de sa vie, celle de ceux qu'il appelait les assassins de la mémoire, c'est-à-dire les négationnistes. Et puis, on retrouvera aussi Jean Bricmont qui a architecturé ce numéro de l'Erne, des cahiers de l'Erne consacré à Chomsky, où évidemment cette question est évoquée. La controverse, elle porte évidemment sur un décalage culturel et civilisationnel, peut-on dire, très important et qu'on perd parfois de vue entre la culture états-unienne et la culture française. J'allais dire européenne, mais je vais dire seulement française, autour de la liberté d'expression. C'est un thème évidemment passionnant depuis deux siècles. La liberté d'expression est inscrite dans le premier amendement de la Constitution américaine, alors que chez nous, la liberté d'expression est dans les lois. Et c'est toute la différence. Mais il y en a bien d'autres. Et la confrontation, la controverse entre ces deux grands esprits est d'autant plus passionnante. Deux esprits, deux grands esprits qui, avec Pierre Bourdieu, on vient d'en parler des trois à la fois, vous le savez bien, sont des références permanentes de notre travail ici. Je le sais aussi pour mes auditeurs qui nous suivent. Et merci à cet auditeur, évidemment, le dernier là, qui vient de s'exprimer, d'avoir évoqué ce sujet. C'est notre sujet du jour. C'est jusqu'à 16h et c'est là-bas si j'y suis. Chomsky et compagnie.
Tonight I'll be talking with a man who has been thinking about how we can see the developing line. He says that propaganda is to democracy
what violence is to a dictatorship.
Because breaking news on Fox News Live right now.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base si j'y suis, avec Guy Vanctil, Chomsky et compagnie.
Alors Michel,
je voudrais vous parler de Noam Chomsky. Alors Chomsky, c'est le pape de la contre-culture. Eh bien, je dois dire que je suis assez effaré du culte que on porte tout d'un coup à Chomsky. Il est surtout connu comme linguiste, c'est l'inventeur de la grammaire générative, ne me demandez pas ce que c'est, qui est discuté d'ailleurs, dont on nous dit que c'est absolument indiscutable. On n'a pas encore trouvé la preuve que sa théorie est valable. Mais bon, ce qui me gêne avec Noam Chomsky, avec lequel sur le fond je suis entièrement d'accord, il attaque l'impérialisme américain, il a été choqué par la guerre du Vietnam, et depuis, tout ce qui est interventionnisme américain dans le monde, il le dénonce. Alors, il y a eu un premier incident en France qui a fait qu'il a été dévalorisé aux yeux de beaucoup, pour de mauvaises raisons. C'est l'affaire Forisson. Vous savez que ce cinglé négationniste, Chomsky a signé une pétition pour la liberté d'expression, pour qu'on n'interdise pas le livre et qu'on ne condamne pas Forisson. Bon, certains l'ont traité d'antisémite, je sais pas, ce qui est idiot parce qu'il est juif. Et puis en plus...
C'est pas incompatible.
Non, mais le problème, c'est que ce n'est pas là. C'est un dogmatique épouvantable. Un type qui campe sur ses principes, c'est-à-dire que pour lui, la liberté d'expression, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Alors, ça veut dire aussi que ce type qui a écrit que le génocide contre les Juifs a fait zéro victime, c'est une phrase de Forisson, ça ne gêne pas, monsieur Chomsky. Et alors, Vidal-Naquet, quand même un spécialiste, lui a envoyé un dossier à l'époque pour lui dire « Attention, c'est un nazi, un antisémite, voilà les preuves ». Et Chomsky, 20 ans après, il ne bouge pas, lui. Il est dogmatique à un point qui dit, 20 ans après, Chomsky dit « Ah, mais moi, je ne l'ai pas lu, Forisson ». Et alors, il a une phrase que je lui pardonne pas, je la trouve absolument grotesque. Il a une phrase où il dit « Je ne sais pratiquement rien de lui, Forisson. Je signe tous les jours des pétitions pour des gens, alors que je ne sais rien ou quasiment rien de leurs opinions ou de leurs actions ». C'est le pain quotidien des défenseurs des droits de l'homme.
Et dites-moi, Michel, vous signez des pétitions tous les jours?
Ah, plus du tout, parce qu'il y a longtemps que j'ai arrêté.
Voilà, en quelques mots, toute la question posée par l'excellent Michel Pollack sur cette antenne même, sur France Inter, le 15 novembre 2001. Michel Pollack évoque Chomsky et évoque cette fameuse controverse. Au passage, Pollack n'oublie pas de mentionner que Noam Chomsky a été dévalorisé pour de mauvaises raisons, mais il s'étonne évidemment que Noam Chomsky ait pu signer une pétition pour défendre Robert Forisson, et alors qu'il n'a pas lu, il ne connaît pas son œuvre, prétendait-il, selon Pollack. Eh bien, c'est toute la question est là. Toute la question est là, c'est que pour un Américain comme Chomsky, et il est très américain, on va dire états-unien, au sens de la liberté d'expression, au sens du premier amendement de la Constitution, il défend les droits de Forisson et non pas ses thèses. C'est-à-dire qu'il est exactement, il le dira d'ailleurs, je suis un voltairien condamné au pays de Voltaire, dit Chomsky. Vous vous souvenez de la phrase fameuse attribuée à Voltaire qui disait « Je ne partage pas votre point de vue, mais je ferai tout pour que vous puissiez l'exprimer ». Voilà la liberté d'expression, voilà l'esprit et les valeurs des Lumières auxquelles Noam Chomsky s'est référé toute sa vie. Alors que Pierre Vidal-Naquet, qui pourtant s'est opposé à ce que l'État intervienne pour dire l'histoire, interdire ne sert à rien, il faut combattre pied à pied des idées fallacieuses, infondées, stupides, etc. Mais il ne faut pas les interdire, disait également Pierre Vidal-Naquet. Mais on va voir qu'on a deux approches différentes de la liberté d'expression. Pourquoi cela est-il important aujourd'hui ? C'est qu'on ne peut pas parler de Noam Chomsky en France sans que la question soit évoquée depuis bientôt, maintenant 30 ans, dans le monde intello-médiatique, vaguement intello-médiatique, disons. Je ne mets pas du tout Polak dans ce monde-là. Eh bien, dans ce monde vaguement intello-médiatique, on entend Chomsky est négationniste, Chomsky a soutenu Pol Pot, Chomsky est un juif antisémite, sans vérifier, sans donner plus de précision, parce que, évidemment, vigilance oblige, vigilance permet, indignation suffit, et on n'a pas besoin d'aller vérifier ni d'argumenter davantage. Quelqu'un comme Philippe Val, par exemple, affirme « Noam Chomsky, qui a préfacé l'œuvre de Forisson, est également un négateur du génocide cambodgien. » Noam Chomsky, qui a préfacé l'œuvre de Forisson, est également un négateur du génocide cambodgien, ce qui revient à dire que Chomsky est un négateur comme Forisson. Et la phrase précédente, je vous lis toutes les deux phrases qui se succèdent sous la plume de Philippe Val. Hitler, par deux fois, a fait allusion au génocide arménien afin d'y adosser son action. Point. Noam Chomsky, qui a préfacé l'œuvre de Forisson, est également un négateur du génocide cambodgien. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'amalgame entre Chomsky, Hitler, etc. Bon, on va laisser ça de côté. On ne peut pas parler d'une opinion tellement c'est incompétent. Mais on va quand même s'intéresser, on va surtout s'intéresser à ces deux points de vue, l'un le français et l'américain, autour de cette question fondamentale de la liberté d'expression, tant en ce qui concerne la mémoire, c'est-à-dire la culture, l'identité, tout ce que vous voudrez, eh bien, ces deux approches si différentes sont à considérer sans que nous puissions, sans que nous souhaitions d'ailleurs à la base, si j'y suis, conclure. On va essayer de vous donner des éléments contradictoires d'appréciation et j'espère qu'en cela nous serons fidèles à l'esprit et à la démarche engagée de Noam Chomsky. On a un problème, les gens de ma génération ont un problème, c'est qu'on on est très... on vous écoute beaucoup, on vous lit beaucoup quand même, depuis longtemps. Mais on a aussi un autre repère, c'est Pierre Vidal-Naquet, qui est mort récemment. Il y a quelque chose qui vous a opposé, on sait quoi, c'est l'affaire Forisson qui vous a opposé. Et c'est terrible, parce qu'on a deux personnes dans lesquelles on fait confiance. C'est très difficile de faire confiance sur la durée à des intellectuels. Et je voudrais qu'on parle de la liberté d'expression.
Well,
c'est bien que vous en avez parlé très souvent, mais...
Well, the United States protects freedom of expression to an extent that goes beyond any other country in the world, as far as I know.
Autant que je sache, les États-Unis d'Amérique défendent la liberté d'expression dans une mesure qui n'a pas d'équivalent dans le reste du monde.
Now that does not go back deep into history. It's recent.
Ça remonte pas très loin dans l'histoire d'ailleurs. C'est assez récent comme phénomène.
It's really since the 1960s.
C'est vraiment depuis les années 60 qu'il y a ça.
In the 1960s, the Supreme Court set a very high level of protection of freedom of speech, which expresses the values of the Enlightenment.
Voilà, et c'est là, dans les années 60 que la Cour suprême a dit qu'il fallait garantir une liberté d'expression très élevée, qui était vraiment une continuité des Lumières.
In France, there's very little conception of freedom of speech.
En France, il y a très peu de soucis de cette liberté d'expression, en tout cas.
And the same is true in England, which has major attacks on freedom of speech.
C'est la même chose en Grande-Bretagne, où il y a vraiment des attaques très très importantes contre la liberté d'expression.
And the same is true of most of Europe, as far as I know.
Et autant que je sache, de la plupart de l'Europe aussi.
In the case that you're mentioning, there was a crucial issue, which Vidal-Naquet always evaded.
Dans le cas que vous mentionnez, il y a vraiment un débat, un enjeu très très important que Vidal-Naquet a toujours contourné, évité.
The question was, should the state have the right to determine historical truth and punish deviation from what it declares?
La question c'est, est-ce que l'État a le droit de déterminer quelle est la vérité historique et de punir tous ceux qui contreviennent à cette vérité officielle?
That's a straight Stalinist doctrine.
Ça, c'est une doctrine caractérisée du stalinisme.
Now, French intellectuals don't like to admit that they support that doctrine.
Les intellectuels français refusent, n'aiment pas admettre qu'ils soutiennent cette doctrine.
And that was precisely the issue in the Faurisson case.
Et c'était vraiment ça l'enjeu dans le cas Faurisson.
He was brought to court for falsification of history in the matter of gas chambers.
Il a été poursuivi en justice pour falsification de l'histoire sur la question des chambres à gaz.
And sentenced on grounds that he had misinterpreted documents and permitted others to use his work in bad ways, evil ways.
Il a été condamné pour justement avoir falsifié des documents et surtout avoir permis à des gens de réutiliser ses propos, de réutiliser son discours dans des contextes terribles.
Now, anyone who is anti-Stalinist and anti-Nazi would be outraged by this.
Quiconque serait anti-staliniste et anti-nazi serait scandalisé par ça.
It's not much of a tribute to the victims of the Holocaust to adopt the principles of their murderers.
C'est pas faire honneur aux victimes de l'Holocauste d'adopter les pratiques de leurs bourreaux.
In order to cover this, there's a mass of lies about my position, including lies by Vidal-Naquet.
Et pour pouvoir couvrir cette débâcle, il y a eu énormément de mensonges à mon encontre, y compris des mensonges proférés par Pierre Vidal-Naquet.
But that's unimportant. The crucial issue is, shall the state have the right to determine historical truth and punish those who don't accept it?
Mais ça, à la rigueur, c'est secondaire. Le plus important, c'est est-ce que l'État doit avoir le droit de déterminer quelle est la vérité historique et de punir ceux qui contreviennent.
It doesn't matter what the issue is.
Et quel que soit l'enjeu, quel que soit le débat, d'ailleurs.
I mean, if the state declares that the earth goes around the sun, and somebody says, no, I think the sun goes around the earth, the state should not have the right to punish them.
Si, par exemple, l'État déclare que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et que quelqu'un dit, mais non, c'est l'inverse, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, l'État ne doit pas avoir le droit de le poursuivre.
There's another elementary fact about freedom of expression.
Il y a un autre fait tout simple, tout élémentaire à propos de la liberté d'expression.
Either you defend freedom of expression for views that you detest, or you don't defend it at all.
Ou tu défends la liberté d'expression pour des opinions que tu détestes, ou tu ne la défends pas du tout.
Even Hitler and Stalin were happy to defend freedom of speech for views that they liked.
Même Hitler et Staline étaient ravis de défendre la liberté d'expression pour des idées qui leur convenaient.
Those are the crucial issues.
Voilà les enjeux essentiels.
And in order to cover those issues, there's the usual flood of lies.
Et pour pouvoir recouvrir ce débat, éluder ce débat, il y a toujours le flot de mensonges habituels.
Ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. Voilà le premier amendement du Bill of Rights, la déclaration des droits de la Constitution américaine, qui est telle que stipulée par le Congrès. Alors, évidemment, c'est un texte qui peut sembler assez souvent décalé de la réalité aux États-Unis, mais il a tout de même permis, et surtout si l'on entend Noam Chomsky, depuis plus de 200 ans, l'édification d'une culture de la libre expression. On peut tout reprocher à la culture américaine, mais certainement pas la question de la liberté d'expression. Quoique, si l'on songe aux menaces, par exemple le macartisme, qui a quand même pesé lourdement sur tous ceux qui, de près ou de loin, dans un climat de paranoïa totale, soupçonnaient, mettaient au pilori tous ceux qui étaient soupçonnés de sympathie communiste, sans parler du Patriot Act plus récemment, un ensemble de dispositions qui ont mis
en question les libertés et les droits individuels, mais malgré ces pressions, le Premier Amendement reste encore une arme efficace pour défendre la liberté d'expression aux États-Unis et une arme dont le principe, effectivement, n'a pas toujours été compris par les Européens. L'affaire Faurisson, la fameuse affaire Faurisson, en donne une illustration. Voilà un document qui date de 2000, 7 novembre 2000, sur France Culture, où Pierre Vidal-Naquet évoque cette affaire et revient sur la fin de ces années 70, où il était très engagé dans la lutte contre le négationnisme, à travers notamment cet ouvrage cité par l'auditeur tout à l'heure, « Les assassins de la mémoire ». Pierre Vidal-Naquet sur France Culture, le 7 novembre 2000.
Pierre Vidal-Naquet, dans votre livre « Les assassins de la mémoire », vous écrivez « On peut et on doit discuter sur les révisionnistes, on peut analyser leurs textes, comme on fait l'anatomie d'un mensonge, on peut et on doit analyser leur place spécifique ». Et vous achevez cette phrase-là en disant « on ne discute pas avec les révisionnistes ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire quelque chose de très simple, c'est que pour discuter avec quelqu'un, il faut avoir un terrain commun. Par exemple, deux astronomes peuvent discuter ensemble, mais un astronome ne peut pas discuter avec un astrologue. De même, je ne discute pas avec quelqu'un qui affirme que la Lune est faite de fromage de Roquefort. Si quelqu'un dit cela, je lui reconnais la liberté de le dire, mais je ne peux pas accepter de discuter avec lui. Et tout ce que demandent les négationnistes, c'est précisément que cette discussion s'ouvre. Et il n'est pas question que cette discussion s'ouvre. Il n'en sera jamais question. Parce que ce serait là reconnaître qu'ils constituent une école historique alors qu'ils sont un groupe de faussaires. La discussion sur leur texte a eu lieu. Je l'ai faite pour ma part. J'ai donné des exemples de leurs arguments et j'ai analysé comment ils raisonnent, plutôt comment ils ne raisonnent pas. Mais discuter avec eux est justement ce qui est impossible.
Alors voilà l'argument de Pierre Vidal-Naquet qui ne voulait pas discuter avec l'astronome, ne discute pas avec l'astrologue, mais enfin en l'occurrence, l'astronome avait examiné de près les textes de l'astrologue, c'est-à-dire que Pierre Vidal-Naquet, l'historien Pierre Vidal-Naquet, s'était penché sur les textes des divers négationnistes, les assassins de la mémoire, comme il les appelait, et pour démonter et démontrer l'irrationalité. Rationalité, les approximations et les contre-vérités de leur travail. Donc, c'est pas une façon de dialoguer, mais enfin, c'est quand même une façon de s'intéresser à ce travail et finalement de donner au travail des négationnistes une certaine importance, puisque Pierre Vidal-Naquet est un homme important, un chercheur important, c'est donc accordé. Mais ça, c'est pas du tout l'approche de Noam Chomsky. Chomsky est tout à fait indifférent au contenu, aux thèses des négationnistes. Il dit il doit être, en l'occurrence Faurisson, défendu au nom de ses droits. Un point, c'est tout. Et c'est là la grande différence, même si on peut prendre en compte le fait que la caution que Chomsky apporte lorsqu'il signe cette fameuse pétition, donne un poids, évidemment, à Faurisson. Cette pétition vient à la suite de la publication, d'abord dans le journal Le Monde, en 1978, si ma mémoire est bonne, des écrits de Faurisson. C'est d'abord Le Monde qui fait exister, en fait, cette façon de voir, cette pensée négationniste, qui sera ensuite, à la suite de cette première publication, il y aura dans le journal Le Monde d'autres articles pour débattre. Mais en tous les cas, c'est la première, apparition, si on peut dire, de ces négationnistes et de leurs écrits. Et ensuite, bien sûr, Forisson sera attaqué de toutes parts et une pétition circulera demandant à ce que les droits de Forisson soient protégés en égard à la liberté d'expression. Et c'est cette pétition-là qui ne fait aucune allusion aux thèses de Forisson que Chomsky, avec plus de 500 personnalités à travers le monde, signera. Et c'est ça qui lui est reproché par Pierre Vidal-Naquet dans la même émission du 17 novembre 2000 sur France Culture toujours.
Noam Chomsky, une figure importante de la gauche américaine, et pourtant, Pierre Vidal-Naquet, en 1980, vous avez une querelle avec lui. Vous pouvez l'évoquer ?
Oui, j'ai eu une querelle avec Chomsky. Chomsky a accepté de préfacer Forisson. Ensuite, comme il était ennuyé d'avoir préfacé Forisson, il a déclaré qu'il n'avait pas préfacé Forisson. La vérité est qu'il ment, que j'ai eu sa préface bien avant qu'elle ne paraisse, que j'en ai averti mon ami Arnaud Meyer, qui est professeur à Princeton, que Arnaud Meyer est allé voir Chomsky et lui a dit « Tu ne devrais pas publier ça ». L'autre lui a dit « J'ai le droit de publier ce que je veux ». Il a dit « Mais tu as tort de ne pas être cautionné les négationnistes ». On ne les appelait pas encore les négationnistes. Alors, Chomsky a persisté et signé, bien qu'au dernier moment, il ait essayé de retirer son texte. Et ce texte était en réalité une synthèse de les lettres qu'il m'avait envoyées, car moi aussi j'étais intervenu auprès de lui, et dans lequel il déclare n'avoir aucune preuve de l'antisémitisme de Forisson, alors que je connais pour ma part cet antisémitisme depuis de très longues années, depuis près de 40 ans. Alors, Chomsky, il est comme André Breton, selon Jacques Prévert, une coupure de presse lui fait garder la chambre pendant 15 jours. Il n'admet pas qu'on dise qu'il s'est trompé. S'il avait dit « Bon, j'ai été trompé par des gens », personne ne parlerait plus de ça. Mais il est évident qu'à partir du moment où il a accepté de préfacer Forisson, il était difficile de passer là-dessus comme si rien ne s'était passé. Alors non, je persiste à penser qu'il a eu entièrement tort.
No, that's not the preface that I wrote, because I never wrote a preface. And you know that I never wrote a preface. He's referring to a statement of mine on civil liberties, which was added to a book in which Forisson, excuse me. Yes, I used
the language you use has meaning.
That's right. And the language I use.
Any political liberal or as someone whose views can be dignified by the words findings or conclusions, that is a judgment, and that is a favorable judgment of his views.
On the contrary.
Voilà un extrait du film Les Illusions Nécessaires, un film consacré à Noam Chomsky. Et c'est vrai que depuis cette controverse, très fréquemment, Chomsky a été, beaucoup moins maintenant, mais enfin a été, les années durant, régulièrement pris à partie lors de ses interventions publiques, toujours sur cette histoire de la liberté d'expression et de cette fameuse préface qui, dans le même film d'ailleurs, est indiqué que des précisions sont apportées sur la façon dont cette préface, d'ailleurs qui est un avis, a été figure dans le fameux bouquin de Forisson. C'est-à-dire que un certain Serge Thion a demandé à Chomsky s'il pouvait utiliser ses textes, ce que Chomsky autorise toujours. On peut faire ce qu'on veut de ce qu'il écrit, et même de ce qu'il dit d'ailleurs. Et bien sûr, liberté d'expression oblige. Et donc, ce Serge Thion a utilisé le texte de Chomsky pour le faire figurer en préavis, en avis, pas tout à fait préface et avis d'un ouvrage de Forisson. Voilà. C'est intéressant quand même de donner cette précision, même si maintenant, avec le temps, ces histoires, évidemment, s'éloignent, mais ont toujours, évidemment, beaucoup de force, tant le préjugé est fort, tant il est difficile de s'attaquer à un préjugé. Une fois que la calomnie est là, c'est effectivement très, très difficile et perdu d'avance presque de mai. Bon, soyons sans illusion, mais pas trop quand même. Alors nous voilà avec Jean Bricmont, je l'ai dit, qui a dirigé ce numéro de Lerne sur Noam Chomsky et qui connaît bien ce dossier et qui le détaille avec, encore une fois, l'espoir naïf, sans doute, que certains reviennent sur certains de leurs préjugés. Jean Bricmont. Chomsky, lu dans le monde entier, écouté dans le monde entier, et pourquoi moins en France? Et pourquoi cette réputation presque sulfureuse de Chomsky en France pour ceux qui ont déjà entendu son nom?
Alors, c'est vrai que c'est un paradoxe, il est mondialement connu, il l'est de plus en plus. Et il est aussi extrêmement connu pour sa linguistique. Alors, pourquoi pas en France? Ça, c'est une longue question. À mon avis, il y a deux aspects. Il y a l'aspect philosophico-scientifique et l'aspect politique. Alors, je vais prendre l'aspect politique. Donc, à la fin des années 70, Forisson a rendu public... qui était professeur de littérature, a rendu public ses opinions sur l'existence des chambres à gaz. Donc il nie l'existence des chambres à gaz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a vu sa sécurité mise en jeu par l'université a suspendu ses cours, ne pouvait plus assurer sa sécurité, des choses comme ça. Chomsky a signé une pétition demandant que cette liberté soit respectée avec 500 autres personnes. Donc Chomsky n'a pas fait traduire ce que disait Forisson, ça n'a pas intéressé à Forisson, moi ça ne m'intéresse pas. On me dit que ses droits sont violés, les gens qui disent ça sont sincères et c'est vrai, je signe une pétition, point à la ligne. Alors il y a eu une tempête de protestations, il a écrit un certain nombre de lettres aux gens pour les convaincre, il aime bien discuter, etc. Et il leur a expliqué que, évidemment, ces lois liberticides, enfin, ou ces mesures, d'abord c'était des lois d'exception, parce qu'on ne les fait pas pour d'autres événements, pour d'autres parties de l'histoire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Staline, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Pol Pot, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur le colonialisme, il n'y a aucune loi qui vous empêche de dire quoi que ce soit, mais là, on avait pris des mesures particulières, et qu'évidemment, si on devait généraliser, on allait se retourner contre les opinions hétérodoxes en général, parce que, comme il dit très bien, il n'y a pas de loi contre la haine, il y a des lois contre les gens que le pouvoir hait. Vous ne pouvez pas censurer les appels à la haine, parce qu'ils sont partout. Vous donnez des tonnes et des tonnes de trucs qui sont totalement dans toutes les bibliothèques de toutes les universités du monde occidental, et qui sont absolument monstrueuses. Et il a expliqué ça dans une lettre, en fait, à Vidal Naquet, etc., lettre qui retravaillait, il l'a donnée à un ami de l'époque qui était Sertillon. Sertillon a cru bon de la mettre comme préface, enfin comme avis, dans un livre de Forisson qui s'appelle « Mémoire en défense », qui est le mémoire qu'il a remis à la cour, mais qui a été publié par ailleurs, pour se défendre contre les attaques de la LICRA. Donc première chose, ce que les défenseurs de la liberté d'expression ont toujours dit, c'est que ce genre de truc ne se produirait pas si on ne faisait pas les procès. Vous connaissez probablement pas Butz. Butz est un espèce de Forisson américain qui a écrit des choses comme Forisson avant Forisson, mais que personne ne connaît, parce qu'il est complètement libre, s'il fait des congrès aux États-Unis, il n'y a personne qui en parle, donc Forisson, on le connaît dans le monde entier maintenant. La conférence de Téhéran, qui agite beaucoup de gens, c'est une contribution, je suis désolé de le dire, de la France à la culture mondiale, et peut-être à une guerre mondiale, parce que maintenant c'est constamment utilisé comme argument pour diaboliser l'Iran, mais cette conférence n'aurait jamais eu lieu si il n'y avait pas eu des poursuites contre Forisson, parce que Forisson, il préfère se réunir à Meudon qu'à Téhéran, évidemment, s'ils ont la possibilité, si on les laisse libres. Et c'est un mécanisme bien connu, ce qui est comique en France, c'est que ça a été expliqué par tous les penseurs des Lumières, ça a été expliqué par tout le monde, par Voltaire, et c'est évidemment ce qui s'est passé dans les pays de l'Est avec le communisme. Donc, ce truc où on censure, et puis finalement on encourage des idées qu'on censure, c'est un truc complètement classique, et néanmoins, quand il s'agit de ces idées-là, les gens n'ont pas l'air de comprendre. Donc Chomsky a expliqué ces trucs-là, et ce texte s'est retrouvé comme préface. Mais bon, lui n'a pas, contrairement à ce qu'on dit, il n'a jamais donné de préface à Forisson. Mais je dois dire, moi je vais plus loin que lui. Moi je défends tout à fait cette préface, même si elle était intentionnelle. Elle n'était pas intentionnelle. Et il a essayé de la retirer à la dernière minute. Mais c'était trop tard, parce que le bouquin était déjà publié. En France, les bouquins, comme vous le savez, sont publiés beaucoup plus vite qu'aux États-Unis. Ça va beaucoup plus vite. Et donc, ça a pris quelques mois et c'est sorti.
Alors, vanité d'intellectuel, malentendu, controverse persistante en tout cas, toute depuis cette époque. Noam Chomsky aura beau répéter inlassablement que discuter avec des négationnistes revient à perdre son temps, ce qui est la même idée que celle de Pierre Vidal-Naquet, que le fait de d'en discuter de l'existence des chambres à gaz est absolument ridicule, que c'est là la pire atrocité de l'histoire humaine, etc. Il aura beau répéter inlassablement, il se trouvera toujours des gens mal informés et plus ou moins malveillants pour discréditer, sans preuve et sans argument. C'est ainsi. Question, donc, dernière question à Noam Chomsky sur la liberté d'expression.
Mais est-ce que pour autant vous considérez qu'il y a des situations où il faut limiter la liberté d'expression, où il peut être légitime de limiter la liberté d'expression?
I accept the traditional Enlightenment view.
Moi, j'accepte la vision traditionnelle des Lumières.
Which, in fact, was reached by the U.S. Supreme Court.
Qui en fait a été validé par la Cour suprême américaine.
The position taken was that speech should be free up to the participation in imminent criminal actions.
Ce qui dit que la liberté de s'exprimer est totale jusqu'au moment où ça amène à des actes criminels.
So, for example, if you and I go into a store and intending to rob it, and you have a gun, and I say, shoot, that speech is not protected.
Imaginons que toi et moi allons dans un magasin qu'on veut voler et que tu tiens un pistolet et que moi je dis vas-y tire. Voilà, ça c'est une limite à la liberté d'expression.
But anything short of that, you have to have a very strong argument to limit freedom of expression.
Mais en dehors de ça, il y a vraiment très très peu de marge de manœuvre pour limiter la liberté d'expression.
The Supreme Court took this position in a case involving the Ku Klux Klan.
Cette décision a été prise par la Cour suprême dans un dossier qui concernait le Ku Klux Klan.
I mean, the most vicious, brutal, racist murderers you can
imagine. C'est-à-dire les meurtriers les plus racistes, brutaux et plus sauvages de tout le pays.
And its position was they have a right to speak as long as it's not participation in criminal acts, no matter how horrendous the speech is.
La conclusion, c'était que ces gens-là ont droit de parler, même si c'est pour dire des insanités, tant qu'ils n'enclenchent pas des actes criminels.
Now, it's interesting to watch what goes on in France these days.
Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe en France ces jours-ci, d'ailleurs.
So there's a lot of self-congratulation. Because was it Charlie Hebdo published racist caricatures of Muslims?
Voilà, il y a beaucoup d'autocongratulation parce que Charlie Hebdo a publié des photos racistes qui impliquaient des musulmans.
Do they also publish Nazi propaganda caricatures of Jews?
Est-ce qu'ils ont fait des caricatures nazies de juifs aussi? Ils ont publié ça?
If they did that, they'd be in jail.
Parce que s'ils avaient fait ça, ils seraient emprisonnés.
So this is all complete fakery and fraud.
Donc c'est vraiment une faussée, c'est vraiment un débat faussé, frauduleux.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage avec Guy Van Til pour les traductions, le montage, etc. Merci à Noam Chomsky, à son assistante Bev Stoll, également à Jean Bricmont. Je rappelle que Jean Bricmont est le coordinateur du numéro de Lern consacré à Noam Chomsky. Merci à Catherine Louis de Lima, à Jacques Munier pour les extraits de l'émission Les chemins de la connaissance du 7 novembre. Avec 2000 avec Pierre Vidal-Naquet. À lire de Bricmont, L'impérialisme humanitaire chez Aden. Beaucoup de bouquins de Chomsky sortent un peu partout, ils sont sortis. Il y a plusieurs éditeurs, les plus sérieux c'est sans doute Agone, et puis aussi chez Fayard, parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus tellement comment s'y retrouver. Et puis aussi le film que je vous conseille
chaudement sur Chomsky, Noam Chomsky, les médias et les illusions nécessaires de Marc Akbar et Peter Vintonic. Et puis aussi, si vous lisez bien l'anglais, le site de Znet, Znet, Z, un Z et puis net, Z majuscule N-E-T, c'est www.zmag.org. Voilà, vous ouvrez sur un site avec beaucoup d'articles, d'intellectuels du monde entier, dans l'esprit évidemment de Chomsky. Et puis, quoi donc encore ce soir à 19h30, il y a un concert exceptionnel, Décolonisons, à la Bellevilloise, 19 rue Boyer, dans le 20e arrondissement. Beaucoup d'artistes seront présents et je crois qu'il y aura les micros de la basse, si j'y suis, portés par Antoine Chao. Si mes informations sont bonnes, en tout cas, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La basse, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez la réécouter également sur labas.org, la-bas.org, et réécouter les émissions précédentes et beaucoup d'émissions de numéros de Là-bas si j'y suis. Il nous reste un peu de temps et on va se mettre ceci dans les oreilles.
Who will pay reparations on my soul? Documents written, many directions for the aid that was given. They gave us pieces of silver and pieces of gold. Tell me who paid reparations on my soul. Many fine speeches. Never really there, yes, but the heat in the summer was there and the freezing winter's cold. Now tell me who'll pay reparations on my soul. Call my brother a junkie, say he ain't got no job. Be a man. You can't depend on no one else.
my mother, she's got to carry me all by herself.
Qui paye les réparations dans mon âme? Hein? Je vous pose la question. Who pays reparations on my soul? C'est Gilles Scott Aaron. Merci à tous. À la technique aujourd'hui, Mathias Allion et Jean-Noël Vélance, et Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Quant à Christophe Imbert, il se tient près du répondeur de la basse et j'y suis attendant vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.